Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, les grandes gueules du sport, votre émission en direct le samedi, le dimanche de 9h à midi. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau très bon week-end. Enfin, je l'espère, mais ne présageons de rien. Au sommaire aujourd'hui, Hugo Humbert s'est qualifié hier soir pour sa première demi-finale en Masters 1000. Jeudi, il a terrassé Carlos Alcaraz. Le joueur français a-t-il changé de dimension? C'est la une des GG dans quelques instants. Oscar Jégou va rejouer au rugby ce soir en top 14. La Rochelle voulait pourtant attendre un non-lieu, mais la procédure traîne et son équipe en a besoin. Le club rochelais a-t-il raison de retourner sa veste? C'est le bras de fer des GG. Donc à 10h, le Roi Léon a encore frappé, pulvérisant hier le record du monde du 200 mètres 4 nages. Le record du monde devient-il plus important que les titres pour lui? Je vous poserai cette question philosophique quelque part. On ouvrira le débat à 11h. Il se marre déjà. Je vous les présente, les grandes gueules du sport ce matin. Une grande gueule qui, comme Donald Trump, il est plus souvent au golf qu'au boulot. Simon Dutin. Salut Simon.
Salut JC, salut tout le monde. Ça te ferait du bien d'aller un peu plus souvent au golf, hein, pour ton jeu, en revanche.
Mais cette phrase marchait aussi pour moi, quand même.
C'est vrai.
Ça va, Simon?
Ça va, je suis ravi de vous retrouver, les copains.
Ben, nous aussi, 9h10, ça va, tout va bien, non?
9h10, ça va, j'ai après 2-3 petites mises au point cet été pour les nouveaux horaires, ça va, je suis bien.
T'es au point, c'est parfait. Une grande gueule qui, comme Donald Trump, elle est en campagne, elle n'est pas sûre de gagner. Marie Martineau, salut Marie.
Salut, oui, moi aussi, ça dépend des grands électeurs.
Oui, hâte de 2030, on y croit Marie. Hein,
c'est gentil.
T'inquiète pas, dans notre émission, on est les faillis à chaque fois. Faillis président de la LFP, Cyril Linette.
Ah oui.
Faillis tout ça, bah, faillis peut-être,
failli, enfin, on espère que je serai l'exception qui confirme la règle.
Exactement, ravi de te retrouver également, ma chère Marie. Une grande gueule qui, comme Donald Trump, il fait des UV, des brochings. Denis Charvet, salut Denis. Bah, dis-moi bonjour au moins.
Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Bonjour.
Tu fais plus d'UV ou de brochings?
Tu sais ce qui est mieux sans toi, la semaine dernière.
il a été sympa dans ses présentations, François Pinot.
Ouais, super.
Ouais.
Super pendant 3 heures, voilà.
D'accord. Bon, bah, je vais me racheter pour l'année.
Ni brushing.
C'est vrai.
Ni UV.
Jamais d'UV.
Ouais.
Bon, dis donc.
Jamais, je te le jure.
Promis. Ok.
Cheveux blancs, parce que ma mère m'a toujours interdit de faire quoi que ce soit.
Oh, heureusement, pas de teinture.
Ah, bah oui.
Ah, oui. Interdit, les teintures. Oui. Elle est
touchée par la grâce de lui. Pas de brushing,
Rien.
Beau gosse.
Quel beau
gosse.
Et une nouvelle hanche en plus.
Donc, et une nouvelle hanche en titane.
Donc on est très heureux.
Maintenant, je saute à la Orly. Hein,
ça le fait marrer parce qu'il connaît bien ça, Pascal Duprat. Une grande gueule qui, comme Donald Trump, s'est aussi fait tirer dessus. Mais lui, c'était par Daniel Riolo. Pascal Duprat, salut Pascal.
Salut JC, bonjour les amis. Bon, moi, j'ai pas de problème de couleur de cheveux. Hein. J'ai pas de soucis.
Ouais,
Par contre, j'ai des problèmes de hanches aussi.
Ouais.
Bienvenue au club, Denis.
Tu sors de la douane.
Il va falloir faire attention à la moyenne d'âge des GG.
On est pas les pattes, hein.
Moi, je sonne de partout.
Hein. Non, mais par contre, avant, je passais comme ça, c'est génial. J'ai fait un aller-retour à Nice là, cette semaine.
Ah, t'as sonné.
Mais c'est pas ça, c'est qu'ils te font tout là. Ils mettez-vous là, garez-vous.
Ah, oui.
Oh, juste ça commence, les conneries.
Mais voilà, je prévois une demi-heure de plus maintenant.
Toujours. Mais comment ça se passe?
Mais ça sonne, tu sonnes.
Oui, non, mais bien sûr. Mais
le mec te dit mettez-vous là. Donc je lui dis si là, je s'en fout le mec. Tu vois, il croit que j'ai.
Il fait quoi?
Tout le check-up. Il m'a fait tout à l'aller et au retour.
Bah écoute, si on
fait. Avec le truc, mettez-vous les pieds, levez les pieds. Voilà, bah je suis passé comme ça.
Enlevez mes vêtements.
Mais tu gardes les vêtements, oui, c'est ça?
Ah oui, bien sûr. J'enlève les chaussures quand même.
Prends le train,
juste. Ouais, ou viens avec une radio pour
nous
régler.
Faut pas lire, les amis.
Ok. Bon, bah, bon courage à tous. Hein.
Ouais.
Bon, on va débuter tout de même cette émission avec cette citation de François Mitterrand. Ça ne rajeunit pas non plus. Qui a dit un jour, il ne faut pas changer ou alors il faut que le changement soit devenu une habitude.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
Alcaraz, deuxième service pour l'Espagnol. Le revers pour commencer en retour pour Hugo Humbert. L'échange qui s'installe en fond de cours. Il arrive à passer en coup droit. Il essaye de faire déplacer l'Espagnol sur sa gauche. C'est trop long. Victoire d'Hugo Humbert en trois manches face à Carlos Alcaraz. 6-1, 3-6, 7-5 pour Hugo Humbert qui passe en quart de finale. Enfin, un Français arrive à ce stade de la compétition à Bercy. Il accroche le scap de Carlos Alcaraz, le Messin, en trois manches.
Il met la pression sur l'Australien avec un coup droit encore très long. Thompson qui résiste pour l'instant. Oh, c'est gagné! Magnifique coup droit d'Hugo Humbert qui se qualifie pour les demi-finales. Fantastique Hugo Humbert, il est sur un nuage.
À 26 ans, c'est enfin son avènement. Hugo Humbert s'est qualifié hier soir pour la première demi-finale en Masters 1000 de sa carrière. La première demi-finale pour un Français depuis Richard Gasquet. En 2019, le numéro 1 tricolore a notamment fait sensation. Vous l'avez entendu cette semaine à Bercy en battant Carlos Alcaraz en 8e de finale. Une victoire référence pour le 18e joueur mondial. Et aujourd'hui, il affrontera Karen Khachanov pour une place en finale. La musique qui fout les jetons est cette question. Hugo Humbert a-t-il changé de dimension? Oui ou non? Simon Dutin?
Non.
Marie Martineau?
Non.
Pascal Duprat?
Oui.
Denis Charvet?
Non, bien sûr.
Non, bien sûr. Il est affirmatif. Non, bien sûr. Un mec qui sonne à l'aéroport, à mon avis.
Non, moi, je bade pas comme tout le monde, comme Pascal qui, première victoire, il bade.
Voilà. Ok.
Ouais, bah, en fait, je suis le seul à le bader des quatre, hein, parce que vous dites tous que non. Donc.
On va débattre dans quelques instants. On va tout d'abord retrouver notre spécialiste qui, les bras lui tombent. Hein,
c'est ça, tu bades ou tu bades pas, toi?
Bah, lui, il bade complètement, c'est sûr.
Ah, il avait quand même posé un jour de congé le jour où un peu jouait Alcaraz. C'est vrai qu'il y croyait fort. Hein.
C'est vrai. Bonjour, Eric Salio.
Bonjour. Non mais je voulais que Morgan qui est le meilleur dans les commentaires Morgan, de judo, voilà, il a vécu frère. Ça et il a goûté la différence quoi.
Ça s'appelle une passe décisive. Bravo à toi mon cher Eric et j'espère que tu as passé un très bon jour de repos. C'était encore une soirée magique hein, hier soir pour Hugo.
Ouais, mais oui, non mais on a l'impression que tous les gens accourent à Bercy pour suivre ce phénomène Hugo Humbert, parce que cette victoire contre Alcaraz, elle a frappé les imaginations. Regardez Noah était devant sa télé jeudi soir. Qu'est-ce qu'il fait?
Ah, il est venu.
Il passe un coup de fil à Gilles Moreton. Dis-moi, Gilou, tu peux pas avoir une petite place pour voir Hugo? Parce que ça m'intéresse de suivre le môme. Il est venu. Mmh. Il a vu un match fantastique.
Ouais, et
écoutez donc sa réaction quand on l'a intercepté à la sortie du cours.
Puis voilà, le lendemain, tout de suite, tu retrouves un gars qui joue vraiment bien. Et t'as tout à perdre tout d'un coup, tu vois, parce que tout le monde s'attendait à ce qu'il gagne facilement. Il part très bien. Balle de match. Il se fait débreaker. Et il gagne finalement, c'est chapeau. Vraiment, c'était un super match. C'est vrai, non, mais il faut pas gâcher son plaisir.
Ah oui, mais il a raison, Yann, parce que c'est le dernier Bercy. Et moi, je trouve qu'il y a une sorte de nostalgie. Et c'est peut-être pas un hasard qu'Hugo Humbert soit dans le dernier carré, parce que c'était pas arrivé depuis Julien Beneteau. C'est seulement le 10e Français à atteindre les demi-finales à Bercy en 39 éditions. Finalement, c'est maigre. Maintenant, on a envie de savoir où il va aller. Et puis surtout, ce qui me frappe, c'est son état d'esprit, c'est son mental. Il a une manière à lui de se motiver. On a vu sur les réseaux sociaux la manière dont il se parle, dont il s'encourage. C'est unique sur le circuit. Mais c'est aussi pour ça que Hugo Humbert gagne, écoutez-le en conférence de presse.
Je me suis donné le droit de faire un autre match sur le central. Je suis trop content. Une magnifique victoire encore aujourd'hui avec un super niveau de jeu et une super ambiance. Donc, première demi-finale, je suis content que ça soit en France, devant tout le public français, puis de pouvoir partager ça avec eux.
Ouais. Est-ce que ce sera le 4e Français à gagner Bercy? La marche est haute parce que tout à l'heure c'est Khachanov et en cas de victoire ce serait Zverev ou Rune, que du lourd.
Et tu prends pas un jour de repos aujourd'hui là, tu y vas vraiment?
J'y vais là, je suis venu, je vais me reposer après et après je file à Bercy pour faire vivre ce match historique.
Tu restes avec nous pour ce débat évidemment. Eric Salio, ça m'étonne pas en tout cas qu'Yannick Noah soit un pote à toi, il passe un coup de fil à Gilles Moreto, ouais, parce que tu peux avoir des places pour le cours et le buffet.
C'est vrai que
bravo Denis Charvet.
Il va avoir du mal à trouver une place Yannick.
Hugo Humbert a-t-il déjà changé de dimension? On se pose la question, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Je vais commencer avec un nom, Marie Martineau, pourquoi non?
Oui, alors non, attention, je suis pas une pisse froid, je me suis régalée hier soir devant le match et je trouve que c'est super ce qu'il est en train de faire et qu'il est en train de vivre et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis assez fan de l'état dans lequel il se trouve. Pour autant, je crois que le sport, c'est une histoire de validation de process mentaux, c'est une histoire de validation de gestes techniques, c'est une histoire d'étapes, mais pas vraiment de dimension. Je crois pas qu'il était à un endroit et que là, d'un seul coup, il est propulsé à un autre endroit. Il est dans les 18 meilleurs mondiaux, tu l'as dit, voilà, tout en haut il y a Sinner et puis lui il a la 18e place. Il l'était déjà avant d'arriver là, tu vois, et donc je crois qu'il est sur sa dynamique et qu'il fait son tennis et que ça va bien pour lui en ce moment et que c'est chouette. Voilà, qu'on peut se réjouir de tout ça, qu'il doit se réjouir de tout ça et qu'il doit prendre un pied fantastique devant ce public français à Bercy, mais je vois pas en quoi il aurait vraiment changé de dimension,
tu prends pas la mesure de ce qu'il a réalisé. Parce que ce qui est important pour les champions, c'est, à mon avis, confirmé. Et quand tu bats Alcaraz en quart de finale et que tu réalises le match qu'il a réalisé hier, pour atteindre sa première demi-finale en Master 1000, si tu me dis qu'il n'a pas changé de dimension,
je crois qu'il a juste continué à appliquer la même recette. Non, je crois qu'il est sur la même recette, il est sur la même confiance en lui.
Moi, je pense qu'il a franchi un cap. Ne serait-ce que déjà briser le plafond de verre et d'aller en demi-finale de la Master 1000. C'est déjà une autre dimension.
Je pense qu'ils sont.
Mais malgré tout, j'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est comme écrit, c'est qu'il va faire la finale, même s'il a un client, hein. Il a un client en face de lui aujourd'hui. Mais j'ai l'impression que il y a de la sérénité, il y a à la fois de la fougue, il y a de la gestion de
la perf.
C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et poursuivre le tennis, impressionné comme ceci par Humbert. Personnellement, je n'ai pas été tout le temps. Pas de cette manière-là, en tout cas. Et c'est pour ça que je me dis, j'ai l'impression qu'il a changé de dimension.
Alors peut-être que dans nos cœurs, il a changé de dimension par rapport à cette victoire. Mais c'est vrai que la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'une victoire face à Carlos Alcaraz, à un moment donné, ça te permet d'accéder à autre chose, un changement de statut?
Pour entrer dans une autre dimension, il faut être constant tout au long de l'année. Il faut battre régulièrement les numéros, les cinq premiers du classement ATP. Ce qui n'est pas le cas pour Humbert. Là, il a fait un coup, il a fait one shot. Et Alcaraz, cette année, je crois qu'il a perdu que 3-4 fois quand même. Il a perdu quelques fois.
Il n'a pas tout gagné.
Je veux dire, il est. Donc après, j'ai lu un petit peu les commentaires. Il paraît que la surface était extrêmement rapide. Le commentaire d'Alcaraz me rassure pas parce qu'il dit, il était un peu choqué que cette surface soit aussi rapide. Donc ça veut dire que ça avantage Humbert. Je dis pas ça contre Humbert. Au contraire, je pense qu'il. Mais quand il y a des arguments à mettre en avant de dire voilà, maintenant on est rentré dans une autre dimension. Tout ça, il faut le prendre en compte. Donc il a gagné, c'est super. Mais la surface était très rapide. Alcaraz était en furieux après le match, donc voilà. Après, il faut qu'il gagne le tournoi. Là, il a gagné des 500, c'est ça, un 500 à balle, non?
Non, pas du tout, non, pas à balle, non. Non,
mais il a quand même passé un cap mental.
À Dubaï, il a un 500. Je veux dire, il commence à gagner les grands tournois. Moi, j'ai envie qu'il réussisse, mais. C'est vrai, hier, je me suis régalé, j'ai regardé le match, mais il faut qu'il confirme et qu'il gagne.
Si on prend le match contre Alcaraz, il domine Alcaraz dans un premier temps et Alcaraz commence à remonter. Et malgré tout, il le bat. Ça montre quand même que Humbert a franchi un
palier. Il a changé de dimension.
Je suis désolé.
C'est QFD.
Je suis désolé.
Oui, mais Pascal, tu encourages toujours.
Mais en fait,
voilà,
c'est tellement facile.
Mais la dimension, c'est facile. Tu retournes l'argument. Il a gagné un match. Il a changé de dimension.
Simon, laisse-moi terminer et après tu me déglingues. Nous sommes sur un groupe WhatsApp. Et quand je lis, Denis me dit, il faut qu'il gagne Bercy pour qu'il change de dimension. Tous les cons vont à la ville alors. Denis. Super.
Mais c'est pas moi qui l'écris. Je reprends la main et je lance Simon parce que pour l'instant, personne ne m'a dit, attendez, ce n'est qu'un Masters 1000, on change de dimension quand on va dans d'autres aptitudes.
Je t'ai dit, Grand Chef, il faut qu'il gagne les 5 premiers.
Plusieurs choses en préambule. Déjà, tu vas retourner apprendre ton métier. Marie Martineau vient de te. Rappeler que les dimensions en sport, ça n'existe pas, les paliers, tout ça, comme ça, on reste ce qu'on est finalement tout au long de sa carrière. Ma chère Marie, on ne change pas d'univers.
Pascal, je te recommande,
il faut aller à la ville de temps en temps, il ne faut pas avoir peur. Hein, tu sais, la ville, il y a des trucs super. Est-ce qu'il a changé de dimension? Non, pourquoi? Parce que Masters 1000 de Paris-Bercy, c'est la fin de la saison. Bon, Sinner n'est pas là, Djokovic n'est pas là. Souvent, les mecs qui dominent le classement mondial, c'est le Masters 1000 sur lesquels ils se permettent de faire un petit peu l'impasse. Et Eric l'a rappelé, il y a l'effet nostalgie, c'est la dernière à Bercy et c'est un des Masters 1000 où les Français historiquement performent le moins mal, j'allais dire le mieux. Alcaraz, il a jamais franchi l'écart à Bercy. Hein. Il a perdu contre Gaston, contre Safioline, contre Rooney par forfait et désormais contre Humbert. Donc Safioline, vous m'expliquez en quoi il a changé de dimension depuis qu'il a battu Alcaraz. Gaston, même chose. Humbert, il avait déjà battu 13 top 10 dans sa carrière, 5 top 5. Est-ce qu'il a changé de dimension à chaque fois? Non. Jusqu'à Tokyo, il était à 6 sur 6 en finale. C'est-à-dire, c'est un mec qui sait la mettre au fond. Il a perdu contre Arthur Fils en finale à Tokyo, il est à 6 sur 7. Est-ce qu'il a changé de dimension à chaque fois qu'il a gagné des tournois? Non.
non, non et non. Donc j'ai pour exemple, j'ai écouté l'excellent podcast, tu sais qu'Éric Salio, il reste la nuit à Bercy, il
nous a fait
12 minutes hier tout seul le pauvre dans Bercy, mais pour parler. Et il rappelle que Julien, moi la seule fois que j'ai vu jouer Roger Federer, qui est un de mes joueurs fétiches, c'était à Bercy en 2009. Il joue contre Bento, je dis ah ça va être le festoche, il va faire un festival. Julien Bento bat Roger Federer dans une ambiance exceptionnelle, on passe une soirée de rêve. Roger Federer à l'époque numéro un mondial, hein, tout de même. Bon, bah Bento l'année suivante, est-ce qu'il a changé de dimension? Notre ami, on l'embrasse, hein, Julien, mais je veux dire, je parle sous son contrôle.
Il va appeler les
en 2010,
furieux.
Il fait huitième à Wim, huitième à Cincinnati, et en 2011, il repasse au-delà de la centième place mondiale alors qu'il était 49e en battant Federer. Donc non, une victoire même contre le patron du circuit mondial, ça te fait pas changer de dimension. Si je suis désolé.
Ok. Bah en tout cas, c'était très complet. Vous avez
un sacré expert.
Il a de bons arguments. Mais je sais que vous avez
Il a
écouté Salio, donc c'est bien.
Ouais.
Vous avez envie de réagir. Il parle de lui à la troisième personne. C'est Éric Salio. Et on le trouve dans quelques instants. Et il y a Marion Bartoli qui va nous passer un petit coup de fil aussi pour nous parler d'Hugo Humbert. A tout de suite sur RMC. On continue le débat.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h32, de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Marie Martineau, Simon Dutin, Pascal Duprat, Denis Charvet, Marion Bartoli arrive dans quelques instants pour nous parler d'Hugo Humbert. A-t-il changé de dimension? Vous avez entendu le plaidoyer de Simon Dutin. Est-ce qu'il vous a retourné, Pascal Duprat?
Non, il m'a pas retourné du tout. Non, mais en fait, Simon, il est comme mes deux autres collègues. Voilà, ils sont là, ils observent neutres les performances.
Ils aiment pas le sport, pleines
de constance d'un joueur de tennis qui est 18e, qui va certainement, Eric va sûrement le confirmer, va encore gagner des places au classement ATP, se rapprocher.
Non, bah, il,
ah bon,
il
pardon,
était,
Eric,
il a
plus, il lui font ce déshonneur là, il lui donne pas de place. Parce que c'est comme si tout était écrit. Voilà, moi, je pense qu'il est capable désormais. C'était pas le cas avant Bercy. De gagner un Master 1000. Et rien que pour ça, il change de dimension. Désolé.
Souviens-toi, l'année dernière, après sa victoire à Dubaï, il atteint la 13e place mondiale. Est-ce qu'il avait changé de dimension? Est-ce qu'il a changé de dimension? Est-ce qu'on parlait beaucoup de Hugo Humbert?
Il a 26 ans, Simon.
D'accord, oui, donc.
Simon, quand même, il n'est pas à la fin de sa carrière, quand même.
Éric,
bien sûr, laisse-lui le temps. Alors, bien sûr, ça passe par des steps. Il en a encore des steps à franchir. Mais là, regarde cette constance. Quand même, c'est extraordinaire de battre Alcaraz. Et puis, le lendemain où il a tout à perdre, eh bien de construire le match qu'il a construit hier. Ça veut dire qu'il il est aujourd'hui plus armé qu'il ne l'était il y a encore quelques semaines.
Tu diras quoi s'il perd en demi-finale? Tu diras quoi?
Juste, Eric, le classement.
Et
déjà.
Toi, tu diras quoi s'il gagne?
Il va évidemment monter au classement, mais il faut savoir que il a un titre à défendre ensuite la semaine prochaine à Metz. Donc ça peut être une opération blanche quelque part.
Mais
c'est pas grave, il sera entre 10 et 19.
Toi qui suis Hugo Humbert, est-ce qu'il s'est passé quelque chose juste? Est-ce que tu as l'impression
non,
que là
il y a un truc qui s'est passé, il est très bien entouré avec Jérémy Chardy, il a une vie personnelle qui est plus équilibrée, il est en couple avec une joueuse donc elle comprend plein de choses. Et puis il a pris confiance en lui, puis je pense vraiment l'effet Bercy joue à fond. La surface est extrêmement rapide. Je ne sais pas si c'était fait pour lui, mais en tout cas, ça sert son jeu. C'est évident parce que c'est un garçon qui adore frapper dans tous les sens, frapper des winners. On va être clair, il gagnera jamais Roland Garros, mais ce garçon-là, si il franchit des paliers, il peut être un prétendant au titre à Wimbledon au même titre que Giovanni Pecipirica.
Avant d'entendre Marion Bartoli, Marie, tu voulais réagir. Moi, je voulais juste revenir et rebondir sur notre question. Est-ce que sur un match, on peut changer de dimension? Je me souviens qu'en 2008, Joe Wilfried Tsonga, alors c'est un grand chelem évidemment, mais change de dimension en battant Rafael Nadal en demi-finale.
Oui, mais c'est un grand chelem. C'est-à-dire que là, pour en arriver en demi, il a battu les mecs qu'on connaît. Bon, alors, il y a Alcaraz, mais je veux dire, si on se projette sur un grand chelem, pour arriver en demi, il va falloir qu'il batte des mecs qui sont tout en haut du classement. Tu vois, il y a quand même une différence. Il y a un Master 1000 et il y a les grands chelems. Et peut-être que la même épopée sur un grand chelem, effectivement, on commencerait à raisonner un petit peu différemment, quoi.
Notre copine Marion Bartoli est avec nous. Salut Marion.
Bonjour les amis.
Merci d'être avec nous Marion. La même question que GG ce matin. Est-ce que Hugo Humbert a changé de dimension là, cette semaine à Bercy?
Alors moi je vais essayer d'être un peu plus raisonnée parce qu'effectivement j'entends vos commentaires que je trouve d'ailleurs très avisés. Mais Hugo, je le connais depuis extrêmement longtemps parce que je m'entraînais avec lui il y a déjà 5-6 ans. On m'avait demandé un petit peu de l'évaluer, on va dire, en termes de niveau de jeu, de donner mon avis. Il était entraîné par un entraîneur qui est vraiment, je trouvais extrêmement bon, qui l'a formé et qui l'a fait justement devenir Hugo Humbert avec son jeu extrêmement agressif, qui n'était pas forcément le cas de Hugo quand il était chez les juniors, où il avait un jeu nettement plus timoré, qui s'appelle Cédric Reynaud, qui était son entraîneur vraiment de formation. On m'a envie de demander un petit peu de l'évaluer, et j'avais très rapidement dit à ses entraîneurs et à son entourage qu'effectivement, pour moi, Hugo était un joueur de jeu d'attaque, un joueur de surface rapide, que ça servait à rien d'essayer de lui donner un jeu de fond de cours, une base de fond de cours extrêmement élevée, que ça serait jamais vraiment son fort, mais qu'en revanche, s'il développait une préparation physique et des qualités de serveur encore plus poussées, pouvait vraiment arriver en haut de l'échiquier mondial sur terme de jeu masculin, parce qu'on peut y arriver en ayant vraiment des atouts très forts sur ces qualités-là. Ce qui me fait très plaisir, c'est de voir que tu l'as dit, mais ça a été dit, Marie l'a dit et Simon l'ont dit. Effectivement, il a eu des titres l'année dernière à Dubaï. Il y a eu un petit moment de creux où il a un petit peu moins confirmé en grand chelem. Et là, de le revoir repartir en jouant beaucoup mieux, et surtout à Bercy, j'ai trouvé que son rebond mental était extrêmement intéressant. C'est un joueur qui, parfois, est un petit peu fragile mentalement. Et là, de le voir aller chercher le public, vraiment sortir sa personnalité habituelle où il est plutôt assez réservé, assez timoré, ça j'ai trouvé extrêmement intéressant parce que c'est vraiment pas sa personnalité naturelle. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus renfermé, qui est souvent assez seul. Et il a besoin justement d'aller s'exprimer, de s'extérioriser là-dessus. Il a fait un énorme travail psychologique et je pense que c'est ce qui peut l'aider justement à changer de dimension, non seulement en termes de niveau tennistique, mais surtout pour aller chercher le public français. Parce qu'aujourd'hui, on pense surtout à Arthur Fils, on pense un peu moins à Hugo Humbert et je pense qu'il a besoin aussi de cette reconnaissance.
Marion, merci d'être avec nous en plus parce que je sais que tu
t'embrasses ta fille, hein.
Avec Hugo Humbert, c'est la journée des enfants, on va te reprendre dans quelques instants. Évidemment, c'est important les enfants le week-end. Oui, Simon Dutin, tu voulais réagir.
Afin de tempérer peut-être un tout petit peu ce que j'ai dit, parce que la dimension, c'est pas seulement le niveau que tu atteins, c'est aussi voilà ce que tu dégages, l'aura. On en parlait hors antenne avec Marie. Bon, peut-être il y a la dimension auprès du public français. Je me mets à la place du fan slovaque ou autrichien de tennis au hasard qui se dit bon voilà, Alcaraz il s'est fait taper par nobody, tu vois. Il se dit pas ah, Hugo Humbert c'est une nouvelle star du tennis, tu vois. Je pense qu'en revanche il est peut-être en train de se passer quelque chose grâce en effet à l'effet de loupe du tournoi de Bercy, à cette relation qu'il peut-être est en train de construire avec le public français, parce que on l'a suffisamment souligné dans les résumés, les comptes rendus de ces matchs. Il y a ce côté le mec qui se parle, tu sais, qui se raconte des, qui se remet dans le match, qui continue de s'encourager, et ça plaît, tu sais, les petites coulisses. Allez vas-y mon gros, lâche
donc,
rien.
Ça, c'est là, c'est non, comme ça que tu rentres dans une nouvelle dimension.
Non, je pense que tu te construis une aspérité, tu vois. Je trouve que le tennis français là, avec la retraite des monstres sacrés là, de ceux qu'on a appelés les mousquetaires, il manque un petit peu de caractère. Tu sors là dans la rue, tu montres une photo de Hugo Gaston, Lucas Pouille et Hugo Humbert aux gens.
Personne sait qui.
Personne sait reconnaître l'un des trois, tu vois. Je trouve que ça manque un petit peu de caractère. Tu sais pas.
Oui, mais quel est le style de l'un et
Simon, le style de l'autre. Mais non, mais je pense qu'il y a un narratif qui est peut-être en train de se construire. Il y avait Noah dans les tribunes hier. Tout ça contribue peut-être à faire de Hugo Humbert un mec.
Mais c'est marrant parce que tu as un bel exemple par rapport à ça, c'est Gaston.
Merci Simon, bienvenue à la campagne.
T'es pas obligé de parler de tennis.
Moi, j'ai pas peur de la campagne, Pascal. J'y vais dès que je peux.
Non, mais c'est marrant parce que je me souviens l'année dernière, où il y a deux ans, on a fait des débats sur Gaston de la même façon, avec les mêmes, en disant voilà, est-ce que c'est le nouvel.
A-t-il changé de dimension?
Non, mais c'est la vérité. On disait ce garçon, il avait un autre jeu qu'Humbert, mais on était subjugué parce qu'il battait des grands.
Pardon, mais je trouve qu'Hugo Gaston, au niveau de la popularité, évidemment. Mais non, mais au niveau du jeu, c'est moins le cas, mais il a changé de dimension.
Oui, mais c'est sur Roland-Garros,
il a changé de dimension.
C'est ce que je voulais dire à Simon, c'est-à-dire il y a la dimension comme ça où d'un coup tu plais, il y a une espèce d'effervescence par rapport à ce que tu dégages. C'est vrai, ce que tu dis, je le reconnais. Mais après, c'est qu'il n'y a que les résultats.
Non, mais
le problème, c'est gagner un grand chelem, ce que ne comprend pas Pascal Dubois, par exemple.
Non, je ne suis pas d'accord, c'est pas gagner un grand chelem. Je veux dire, au moins des tous les mousquetaires ont changé de dimension à un moment donné.
En demi-finale qui bat Nadal.
Oui, JC a raison. Gaston était entré dans les foyers français parce qu'il avait joué team en prime time sur France Télévisions, en clair. C'est important aussi l'effet loupe de la télé.
Oui, exactement. Marion veut réagir justement. Marion.
Non, mais Hugo Gaston, s'il vous plaît. On peut pas me dire qu'Hugo Gaston a changé de dimension médiatique et que tout le monde connaît Hugo Gaston. C'est pas vrai.
Mais plus qu'un meurtre.
Moi, je suis d'accord avec toi. Détrompe-toi, Marion. Moi, mon fils, il adore Hugo Gaston. Il le connaissait
pas vrai.
C'était un Roland-Garros pendant le Covid, au mois d'octobre, avec une surface extrêmement lente. Et sur un prime time, effectivement, comme l'a dit Eric, sur un match à Roland-Garros, il arrivait à les prendre au mid-team. On voit très bien que depuis 4 ans, Hugo Gaston n'a absolument pas pu confirmer ce résultat-là et qu'il est bloqué entre 150 et 80e mondial. On ne parle pas du tout du même joueur ni de la même qualité chez Hugo Humbert. Hugo Humbert, il a largement la capacité pour moi de s'installer entre 10 et 15, voire d'aller plus haut. Donc déjà, on ne parle pas du même joueur. Après, vous avez parlé des mousquetaires, mais il ne faut quand même pas oublier que les mousquetaires, et on l'a vu avec les résultats de Richard Gasquet, c'est des gars qui systématiquement, sur tous les grands chelems, étaient en deuxième semaine, déjà pour commencer. Ouais. Joe Wilfried Tsonga avec une régularité absolument incroyable pour faire des demi-finales, pour aller taper Roger Federer à Wimbledon. C'est quand même le seul joueur à avoir battu Roger à Wimbledon en étant mené 2-7-0. C'est des joueurs qui ont été capables d'avoir une constance de résultats au tout, tout plus haut niveau, et en particulier sur la tournée du Grand Chelem, que pour l'instant, ni Hugo Humbert ni Arthur Fils ont été capables d'avoir. Donc on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Pour l'instant, pour moi, sur Hugo Humbert, ce qui est vraiment net et clair dans sa progression, c'est qu'il a pris conscience qu'effectivement la préparation physique était un élément capital dans son jeu. Même si c'est un joueur qui joue plutôt avec son bras, il a quand même besoin d'avoir un niveau physique qui soit minimum pour arriver à exprimer ce potentiel de jeu d'attaque, et que là-dessus il a fait un énorme travail avec Xavier Moreau, et que ce travail finit par payer. Il faut quand même voir qu'Hugo Humbert, au départ, c'est un joueur qui était bloqué à 200e mondial, qui jouait les challengers et qui ne s'en sortait pas. Il n'avait pas la progression d'Arthur Fils, par exemple. Donc pour moi, le voir aujourd'hui en étant à 26 ans avec un classement dans le top 20, c'est déjà une progression qui est immense, immense. Et être en demi-finale d'un tournoi à Bercy, d'un Master 1000 également. Alors Alcaraz, il l'a dit lui-même, effectivement, c'est une surface trop rapide pour lui. Il ne peut pas jouer sur des vitesses comme ça. Ça démontre aussi que Wimbledon a été extrêmement ralenti en termes de surface, puisqu'Alcaraz a gagné déjà deux fois Wimbledon. Mais Hugo, au départ, quand moi je m'entraîne avec lui, qu'il a 19-20 ans, il est bloqué à 250e, 300e mondial. Il joue des challengers, il ne les gagne pas, voire il perd très tôt. Donc déjà, d'avoir eu cette progression énorme pour aujourd'hui être un joueur du top 20, c'est déjà un résultat qui est absolument magnifique pour lui.
Ok, bah merci beaucoup Marion Bartoli d'être venue dans ce débat à nous parler d'Hugo Humbert. On te retrouve évidemment très rapidement dans les grandes gueules du sport. Eric, c'est à quelle heure le match ?
Pas avant 16h30.
Pas avant 16h30.
Ça va dépendre de la durée de la première demi. Si ça dure 3h, ce sera donc 17h.
Ok. Oh, et Eric me disait que le préparateur physique, donc dis-le, Eric.
Non, dis-le, je sais, tu le savais.
D'Humbert, c'est Tsonga. Il a été préparateur physique de Tsonga et de Mauresmo.
Ah ouais? Oui, non, bah bonne info, Denis.
Voilà, bravo. Bonne info.
Il a bossé. Bravo, Denis, hein. Bravo. Merci, Eric.
Ah, c'est pas le cas de Pascal.
On se retrouve dans le podcast cours numéro 1.
On a placé une bonne, Denis, bravo.
Tous les soirs, une pastille justement sur la journée. C'est sur les applications. Et évidemment, vous pouvez aller télécharger ça, écouter ça en podcast. Merci beaucoup. Eric, salut. On se retrouve dans quelques instants pour le zapping. On s'en fout pas, avec notamment Monaco qui sombre à domicile face à Angers. C'était hier soir en Ligue 1. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h47 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Pascal Duprat, Marie Martineau, Simon Dutin, Denis Charvet. À partir de 10h, on ouvre le dossier Oscar Jégou qui va rejouer au rugby ce soir en top 14. La Rochelle voulait pourtant attendre un non-lieu, mais la procédure traîne. Le club Rochelais a-t-il raison de retourner sa veste? C'est le bras de fer des GG, vous n'êtes pas d'accord? C'est donc dans une dizaine de minutes. À 10h45, les GG contre-attaquent. Vous prenez les commandes de cette émission, les GG, en nous proposant un débat soumis au vote sur le compte X des grandes gueules du sport. Vous avez 20 secondes pour nous faire votre proposition. Denis Charvet,
c'est très simple. C'est, est-ce que le rugby à 7, après ce qu'on a vécu cet été, la médaille olympique, va survivre à l'absence d'Antoine Dupont?
Très bien.
Le RC ne jouera plus jamais dans cette équipe de France.
La réponse est non, donc on n'est pas obligé de faire un débat.
Il n'y a pas de débat, oui.
Je blague, Denis, oh là là.
Okay, bon,
c'est la proposition de Denis Charvet.
Toi, je réponds pas.
Le rugby à 7 peut-il survivre à Antoine Dupont? Marie Martineau.
Moi, j'aurais aimé qu'on parle d'un jeune homme qui s'appelle Lucas Bratton, qui est un skieur extraordinaire, qui est de nationalité norvégienne de base et qui a décidé de tourner les talons à la Norvège il y a quelques années après avoir quand même gagné des petits globes en slalom, qui est un géantiste. C'est vraiment un skieur extraordinaire, très jeune, qui est arrivé au sommet de la hiérarchie mondiale très jeune, et qui a fait ce choix parce qu'il était mal dans son équipe de Norvège, de claquer la porte, et il est revenu à Solden le week-end dernier avec son drapeau Brésil, et il a super bien skié, parti avec un dossard assez loin, il passe en deuxième manche, tout ça, et donc je voulais qu'on en discute de comment ça doit être difficile de dire ben j'arrête, je sors d'une équipe même si elle est très performante dans un sport, parce que moi ça ne me convient pas, faire ce choix personnel de sortir de tout ça pour revenir Bon, je vous raconterai tous les petits détails si vous venez pour une carte
blanche. Tu ne l'as pas raconté, la Marie ?
Non, mais le débat, c'est ça. C'est,
mais ça, il est fait. C'est un très bon sujet. Franchement, c'est un phénomène.
Bravo, Marie. Vous pouvez aller voter.
Je vais voter pour toi, tu vois.
Allez,
Marie. Je vote pour toi, Marie.
Pascal, ta proposition.
Moi, je suis certain que ça va faire débat et j'ai besoin de l'expertise et de la pertinence de mes amis GG. J'ai été surpris cette semaine quand j'ai vu que Charles Olivon était hors de la liste de Galtier pour la tournée d'automne. Et moi, je vous pose cette question-là. Peut-il revenir en bleu? Voilà. Je réfléchis. Est-ce qu'il y a des messages au travers de cette éviction? Voilà, je voudrais qu'on en débatte.
D'accord. Ben, Charles Olivon, je voterai pas pour toi.
Qui est retourné dans son club. Si, c'est un débat très intéressant. Simon Dutin.
Moi, je voudrais lancer un débat sur la sanction qui a été infligée à Gift Orban, c'est l'attaquant nigérian de l'Olympique Lyonnais qui a été écarté du groupe de Lyon qui se déplaçait à Lille hier soir pour la 10e journée de Ligue 1. On lui reproche en fait d'avoir mis un commentaire top avec un point d'exclamation sur le compte Instagram de Diomandé, son ancien partenaire à Lyon, désormais à Auxerre, et qui avait marqué contre Lyon le week-end dernier. Il a été écarté pour ce motif. Est-ce que c'est une sanction juste ou injuste? Selon vous, j'aimerais bien vous entendre parce que moi-même, j'ai du mal à me faire mon avis.
Quatre propositions.
Moi, j'ai rien
débat.
Compris, Simon.
Vous allez pouvoir. Moi, j'ai parfaitement compris.
Mais lui non plus, c'est pas trop, il a pas
d'avis. Arrêtez le mauvais esprit, on a tous compris. Aimé. Bravo pour vos débats.
Pour toi, Simon.
C'est à 10h45, vous pouvez voter évidemment sur le compte X des Grandes Gueules du Sport. Tout de suite, on s'en fout pas.
Le zapping des Grandes Gueules du Sport.
Des informations à vous donner, l'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, c'est Monaco qui sombre à domicile face à Angers. On s'en fout, on s'en fout pas. Simon Dutin.
On s'en fout pas.
Marie Martineau.
Je m'en fous.
Pascal Duprat.
On s'en fout pas.
Denis Charvet.
On s'en fout pas.
Deuxième défaite de suite pour le dauphin du Paris Saint-Germain. Hier soir, la SM a perdu donc à domicile face à Angers 1-0. C'est une sacrée surprise et le coach de Monaco, Adi Hütter, n'a pas du tout aimé.
C'est le pire match de ce début de saison. Nous avons tout manqué, spécialement en première période. Angers a réalisé un bon match ce soir, mais nous avons tout manqué. Nous devons nous excuser auprès des fans pour cette première période. Il faut savoir être humble. Toutes les équipes veulent nous battre. Nous avons pris 1 point sur 9 lors des 3 derniers matchs. C'est trop peu.
Et c'est une petite phrase cette semaine dans le journal L'Équipe qui a beaucoup fait parler. Elias Benseguir, le milieu offensif de l'ASM, a déclaré « Il pense, en parlant du Paris Saint-Germain avec cette bataille en haut du classement, qu'ils vont nous battre facilement. On verra. Moi, je ne vois aucune équipe supérieure à nous, peut-être au même niveau, mais pas supérieure. » Et là encore, Adi Hütter n'avait pas aimé.
Dans cette situation, il faut être malin. On a confiance en notre travail et on respecte les autres équipes de la Ligue 1. Paris est le grand favori, mais on peut être un adversaire redoutable. Il y a beaucoup de bonnes équipes qui peuvent menacer le haut de tableau, y compris nous. On sait qu'on a une équipe talentueuse et on croit en notre projet. Il faut garder nos émotions sous contrôle, sinon n'importe qui peut nous battre. Ilyes est un jeune talent et il rêve parfois. Laissez-le rêver, mais d'abord, on doit faire notre boulot.
Et patatras, il faut savoir fermer sa bouche, Simon Dutin.
Oui, j'avais trouvé qu'il y avait beaucoup de spontanéité et de fraîcheur dans cette interview croisée et j'avais eu l'occasion de dire à l'after que je pensais qu'ils étaient peut-être tombés un petit peu dans le piège justement de cette trop grande spontanéité et ça m'étonne pas que ça n'ait pas plu à leur entraîneur hier. S'il y a 3 ou 4-0 pour Angers, il n'y a pas de scandale. Ils se sont fait transpercer toute la rencontre. Devant, il n'y avait aucune créativité. Benseguir rentre en seconde période. Il a un tout petit peu apporté. Mais il faut rappeler qu'il manque Zakaria, leur milieu de terrain suisse, et que du coup, en transition, ça manque énormément d'équilibre dans cette équipe. Et c'est un petit peu inquiétant.
Ce qui est dur, c'est quand tu joues des équipes comme un peu moins bien classées, un peu
moins largement moins bien classé. Voilà, Angers, il y a 2 semaines, était dernier.
Largement, il y a un problème de motivation, il y a un problème de, je pense, un peu de suffisance chez les jeunes aujourd'hui qui ont cru que.
Il a fait tourner l'équipe aussi. Donc.
Oui, mais la suffisance, ça ne fait pas partie du sport de haut niveau et je pense qu'il y en a eu beaucoup de chez eux pour jouer ce match.
Ouais, de la suffisance, Pascal?
Ouais, parce qu'il y a de remarquable, ou en tout cas, ce qui mérite d'être souligné, c'est qu'il y a encore une semaine, on disait que Monaco et Marseille allaient être les rivaux du Paris Saint-Germain pour le titre. Ouais. Et puis, en l'espace d'une semaine, tout ceci a volé en éclat. Mm-hmm. Non, je trouve que on a suffisamment vanté les mérites de l'entraîneur Adi Hütter depuis le début de la saison. Mais le métier d'entraîneur, c'est dur. Et je suis certain que cette semaine, on va lui tomber dessus. Voilà, c'est tout simplement pour dire que la fonction, elle est merveilleuse, mais elle est délicate.
Et lui, il va tomber sur ses joueurs.
Et dans l'autre match du soir, Lyon a arraché dans les dernières minutes le nul 1 partout sur la pelouse de Lille. Encore un entraîneur qui n'a pas aimé, c'est Pierre Sage, surtout la première période, le coach de l'OL.
Je trouve notre première mi-temps inadmissible, parce qu'on s'est complètement abandonné. On était indigne d'être l'Olympique Lyonnais, très clairement. Il n'y avait aucune intensité, aucune mentalité à jouer ce match pour être compétitif. L'erreur qu'a fait Lille, c'est de nous laisser en vie. Et ce que je voudrais dire à la mi-temps, c'est que à la limite, je m'en foutais du score, mais je voulais voir l'Olympique Lyonnais sur le terrain, quoi, parce que c'était pas notre équipe.
Voilà, Pierre Sage énervé au micro de DAZN. Donc un partout hier face à Lille. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est Antoine Dupont qui dénonce les cadences infernales en rugby. On s'en fout, on s'en fout pas. Simon Dutin.
On s'en fout.
On s'en fout. Marie Martineau.
Non, moi je m'en fous pas.
Ok, Pascal Duprat.
Je m'en fous pas.
Denis Charvet.
Non plus.
Invité de Sud Radio, le demi de mêlée de Toulouse et du 15 de France a évoqué les calendriers surchargés alors que les Bleus débutent leur saison par la tournée d'automne. Vous le savez, c'est samedi prochain le premier match face au Japon. Voici ce qu'il dit. J'ai eu la chance d'avoir une gestion optimale la saison dernière. Mon staff à Toulouse a fait des efforts pour me permettre d'avoir des plages de récupération. Le problème, c'est que chaque joueur doit négocier avec son staff pour en avoir des matchs. Il y en a trop, tout le monde le sait et pourtant, rien ne change.
C'est une réalité d'aujourd'hui, oui, mais on le sait. Alors lui, il était dans une opposition plutôt favorable parce qu'il s'est arrangé avec son club, il s'est arrangé avec la fédération. On lui a déroulé le tapis rouge pour faire les JO, pour ne pas faire le tour destination.
Pardon, donc, c'est naïf ce que je vais te demander, mais on sait qu'en rugby, ça joue une fois par semaine, c'est trop.
Tu peux pas jouer deux fois par semaine.
C'est mais personne ne joue deux fois par semaine.
C'est en football, je veux dire, pardon, en football.
Oui, non, mais en football, ils jouent.
Mais en rugby, une fois par semaine.
Oui, mais pourquoi c'est trop, en fait?
Ben, c'est trop parce que le rugby aujourd'hui est devenu beaucoup plus physique qu'avant. Donc, les coups sont beaucoup plus forts. Et le corps n'arrive plus à n'a plus le temps de récupérer, si tu veux.
Donc, il faudrait pas faire quatre matchs
la saison, il faudrait que la saison fasse comme aux États-Unis, 6 mois, 7 mois, et puis avoir des plages de 3-4 mois de récupération pour pouvoir préparer la saison suivante. Voilà, il y a trop de matchs, c'est évident, entre les tournées, entre les Coupes d'Europe, maintenant ils veulent faire un championnat des clubs, maintenant un championnat du monde des clubs qui va voir le jour dans 2 ans, enfin, c'est la folie.
Mais c'est étonnant qu'Antoine Dupont parle de ça, parce que lui, il ne s'est pas ménagé justement.
Alors, il ne s'est pas ménagé, c'est vrai, mais si, il a eu la chance de pouvoir bénéficier d'un emploi du temps aménagé, et on a, comme tu le dis, déroulé le tapis rouge, parce que c'est le meilleur joueur du monde, et qu'on a essayé de faire en sorte de le mettre dans les meilleures conditions possible. Moi, je trouve ça génial que justement ils prennent la parole pour dénoncer ça, parce que lui, il peut le faire. Il peut le faire. Il y aura zéro conséquence. Il peut le dire. Il y aura zéro conséquence. Il peut porter ces sujets-là. Moi, j'adore les athlètes engagés. Je trouve ça chouette que lui, à la place qu'il a, prenne quand même le temps de dire pour mes potes, pour tous les autres, il faut qu'on parle et qu'on mette ce sujet sur la table parce que c'est un vrai sujet.
Sachant que le top 14 est un championnat le plus dur au monde. Pour le dire, et oui, qui est le plus long, qui est le plus dur, le plus exigeant. Quand les Irlandais font des saisons à 17 matchs chaque international.
C'est le seul sport
en fait. Là où je suis surpris.
10 secondes, Pascal.
À 10 secondes, alors je dis rien, alors je suis pas surpris. Non, tout simplement, les effectifs sont pléthoriques, les joueurs sont préparés, il y a l'accent qui est mis sur la santé des joueurs. Moi, je trouve que, de plus, oui, Dupont a été privilégié parce qu'il avait des objectifs bien précis. Donc, moi, je trouve que c'est pas... Il a raison de le dire, mais moi, je le prends pas super, quoi.
Okay. Voilà.
Le rugbyman, il joue une fois par semaine et ils sont nombreux. Il y a beaucoup de remplacements et je trouve qu'ils se plaignent, quoi. Peut-être que j'ai pas la mesure du niveau d'intensité d'un match de rugby.
Allez, on en reparlera évidemment, les copains. On se retrouve à partir de 10h dans quelques instants pour parler d'Oscar Gégaud. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.